Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est bien passée. Si ce n'est pas le cas, n'oublie pas que la clé du bonheur, c'est beaucoup de patience et de persévérance. Mais surtout, une grande confiance en Allah. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode. Je pense le plus attendu de tous les épisodes. Vraiment, sincèrement, je pense vraiment que ce soit le plus attendu parce qu'il va porter sur le mariage. D'ailleurs, je suis en train de t'enregistrer cet épisode dans mon salon, dans mon appartement, dans mon nouveau chez moi. Donc, on change totalement d'univers, ça change de ma petite chambre que j'avais refaite en mode cocooning et tout. Donc, c'est de nouvelles marques à prendre, mais c'est pas grave, on va s'habituer rapidement, Inch'Allah. Je pense que tu as dû apprendre via mes réseaux sociaux que je me suis mariée il y a maintenant 2 mois. D'ailleurs, cet épisode-là, je l'avais déjà enregistré il y a 2 mois. Vraiment, je crois une semaine après mon mariage. Et en fait, après réflexion, après un long voyage avec mon mari, etc., je me suis dit, non, je vais le réenregistrer. Et ce sera un peu plus pertinent de l'enregistrer en fait 2 mois après, avec on va dire 2 mois d'ancienneté de mariage et des choses à raconter quoi. Donc, par où commencer? Je ne sais pas, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, j'ai envie de te dire, beaucoup de points à aborder. Mais je me suis noté tout ça sur mon petit carnet. On entend mes bracelets faire du bruit. Alors, par où commencer? Ne t'attends pas dans ce podcast à avoir ma petite story sur mon mariage. Je pense que tu as l'habitude. J'aime bien garder mon petit cocon personnel et intime pour moi. Donc du coup, je vais t'épargner. Ça sert à rien que je te fasse rêver avec toute une histoire de mariage, de rencontres et je ne sais quoi, te vendre du rêve ou je ne sais quoi. Je suis pas là pour te montrer le beau côté du mariage, je ne suis pas là pour te montrer le mauvais côté du mariage, mais plutôt discuter de choses que j'aurais aimé savoir avant de me marier, des choses que je me suis appliquées à moi-même ou des choses que j'ai appris en fait avec le temps. Ou en discutant avec mon mari ou autre. Mais quand même, pour te débriefer un peu, du coup, ça fait 2 mois que je suis mariée, alhamdoulilah. Et ça faisait un bon moment qu'on organisait tout cela. Ça faisait déjà un bon moment qu'on savait qu'on voulait se marier. Tout a été fait dans les règles, Dieu merci. On a essayé au maximum de préserver notre chasteté et notre pudeur, ce qui était extrêmement important pour nous. On a vraiment fait prôner cette relation sur les principes fondamentaux de l'islam et ce qui nous avait et ce qui nous a toujours été du moins inculqué, on va dire. Donc franchement, pas que je ne veuille pas te raconter cette histoire. Mais j'ai pas envie de te montrer une chose et que tu te bloques en fait en te disant il faut une histoire comme ça. Chaque histoire est différente. Ton histoire, ma sœur, sera différente de la mienne et différente de celle de ta copine, de ta mère, de ta sœur. Elle sera différente. Tu auras une histoire à ton image, tu auras une histoire à l'image de ta vie, tu auras un mari à ton image et à ta hauteur. Ça ne sert à rien que je te fasse rêver, ça ne sert à rien que je te vende quelque chose, ça ne sert à rien que je te raconte quoi que ce soit, parce que j'ai envie de donner d'envie à personne et j'ai envie que personne ne se dise « Ah, elle a de la chance, je veux la même chose. » Parce que je peux pas savoir en fait qui écoute ce podcast, je peux pas savoir quelle blessure tu as, je peux pas connaître ta vie, je ne sais rien. Et je suis un peu contre ces personnes-là qui nous vendent un mariage parfait, qui nous vendent une histoire parfaite, qui nous vendent une rencontre parfaite. Et vraiment, je suis contre ces personnes-là parce que je me dis, est-ce que vous savez ce qu'il y a en fait derrière tout ça quand la personne elle regarde son téléphone et qu'elle vous écoute? Est-ce que vous savez que peut-être bah, sans savoir, vous faites du mal à quelqu'un? Est-ce que vous savez que vous causez peut-être une peine? Ou peut-être que bah, y a quelqu'un qui va se sentir mal après ça et remettre littéralement toute sa vie en question? Parce que toi, tu as eu une histoire parfaite, entre guillemets. Je suis vraiment contre ces personnes-là, même si je pense que... Bah, je pense qu'en fait, en racontant tout ça, c'est juste dans un but de partager de bons moments et de partager des moments heureux avec leur communauté, on va dire. Parce que la plupart du temps, du coup, c'est les influenceuses ou créatrices de contenu qui exposent tout cela sur les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment en fait penser à ça derrière. Il faut vraiment penser aux personnes qui nous regardent. Et moi, j'ai vraiment appris avec le temps à faire attention à ça. Et en même temps, à protéger bah, mon petit côté personnel, quoi. Je trouve ça super important. Parce qu'on est tous pareils et je suis comme toi, ma sœur. Je n'ai rien eu de plus, je n'ai rien eu de moins. J'ai juste eu une histoire qui m'a été écrite il y a des milliers d'années. Et tu auras ton histoire, Inch'Allah. Et peut-être que tu as déjà eu ton histoire, peut-être que tu es déjà mariée depuis très longtemps. En fait, chacun a son truc, chacun a son livre écrit avec des lettres d'or. Et voilà. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on a chacun nos petites histoires, on a chacun nos petits trucs, nos petites galères, nos hauts, nos bas, nos montagnes. Bref. Voilà. Ça se voit que ça fait longtemps. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Ok, on va commencer par... les étapes avant mariage, le commencement du commencement. Je le dis souvent parce qu'on m'envoie beaucoup beaucoup de messages, beaucoup de sœurs qui m'envoient des messages par rapport au mariage. Comment t'as fait, bah, c'était quoi les démarches, quelle cause as-tu fait, est-ce que tu voulais te marier? Je vais te répondre, je vais te donner vraiment toutes les réponses, mais vraiment toutes. Alors déjà pour commencer, il faut savoir une chose, c'est que quand le mariage a tapé à ma porte, je ne voulais pas me marier. Il y a eu une fois où j'ai dit, bah voilà, je voulais pas me marier, c'était pas prévu, c'était pas dans mes plans. Et on m'a sorti, c'est toujours celles qui ne veulent pas, qui finissent mariées. Voilà. Bizarrement, c'est vrai. Je suis pas là pour vous dire que c'est faux. Mais c'est vrai que bizarrement, la plupart du temps, quand je parle avec mes copines qui sont mariées et que je leur demande est-ce que tu voulais te marier avant que ça vienne à toi, etc., on me dit souvent non, j'étais pas dans une optique de mariage. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. J'étais pas du tout dans une optique de mariage parce que je suis plus dans une mentalité à me dire qu'il faut que je me connaisse et que je m'accomplisse personnellement, et après je vois le mariage. Et en fait, au moment où le mariage est venu toquer à ma porte, bah en fait, je me suis dit ok, je me connais même très bien, ok, je me suis accomplie personnellement, mais est-ce que je suis arrivée au maximum de mon accomplissement personnel? Est-ce que je me connais suffisamment pour me marier? Et c'était vraiment beaucoup, beaucoup de questions comme ça. Mais vraiment, conseil de sœur à sœur, si tu n'es pas encore mariée ou si tu veux te marier, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu te connais en termes de personnalité, de valeurs, de tes attentes? Parce que oui, il faut connaître ses attentes envers ton futur mari. Et c'était vraiment des questions auxquelles moi j'avais les réponses. Mais je voyais le mariage très loin, je me disais mais non, pas maintenant, pas maintenant. Et on m'a toujours dit que quand le mariage vient à toi, t'as pas le droit de le refuser. Parce que c'est Allah qui te l'a envoyé. Et donc du coup, vraiment, gros gros conseil. Sors toute seule. Fais-toi des petits moments toute seule. Je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à te créer ta safe place. À te créer ton petit cocon dans ta chambre, chez tes parents. Même dans un café, ton café préféré, je sais pas. Dans un parc, n'importe. Mais crée-toi cette petite bulle où tu te sens bien, où tu te sens apaisé, où en fait où tu te sens toi-même. Parce que la plupart du temps, quand on est en société, on a tendance un peu à changer, on a tendance un peu à s'adapter au monde autour de nous, on a tendance à vouloir s'adapter aussi aux personnes avec qui on discute, etc. Et c'est totalement normal, parce que l'être humain, il s'adapte très rapidement, du moins certains êtres humains ont cette facilité-là à s'adapter au monde extérieur. Et c'est ok, mais t'as besoin en fait de ces moments-là, à toi toute seule, où tu dois te retrouver, où tu dois te ressourcer, où tu dois te décharger de toute la charge sociétale qu'il y a autour de toi, de toute la charge mentale, de toute la pression que tu peux avoir autour de toi. Je sais pas, pression par rapport à des relations toxiques, par rapport au travail, par rapport à, je sais pas, une histoire qu'une copine t'a racontée. Moi, je sais que je suis une éponge. Comment t'expliquer? Je suis une éponge. C'est-à-dire que moi, demain, tu vas venir, tu vas me raconter une histoire et je vais vivre l'histoire avec toi et je vais avoir de la peine comme toi. En fait, je vais prendre l'histoire, je vais me l'accaparer comme si c'était mon histoire à moi. Alors que pourtant, Dieu merci, moi, il m'est rien arrivé. Mais parce que tu me l'as raconté, eh ben, je vais la prendre sur mon dos et en fait, je vais avoir cette volonté de me décharger, enfin de te décharger, pardon. Pas de me décharger, mais de te décharger toi, parce que je pars du principe où bah, t'es venu me raconter ton histoire et c'est que ça va pas. Et j'ai vraiment cette volonté de d'aider, j'ai tellement cette volonté d'aider que bah, je me fais du mal indirectement et c'est même pas la solution parce que bah, au final, bah, j'aide pas la personne en faisant ça. Donc peut-être que t'as besoin de te décharger par rapport à ce genre de choses, etc. Mais c'est important de te faire ton cocon personnel. Où tu peux faire le vide et où tu peux te dire, ok, je souffle. Et être vraiment loin de tous les problèmes de la vie de tous les jours, être vraiment de tous les soucis, de tout, 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 tout. Donc, crée-toi cet espace-là, apprends sur ta religion, rapproche-toi de ton créateur. Demande à Allah de te faciliter l'apprentissage de la religion. Demande à Allah de te faciliter ta situation si t'es dans une situation qui est compliquée. Demande à Allah de t'accorder un bon entourage. Ne jamais négliger les doigts. Vraiment, j'insiste. Parce que il y a 2-3 semaines, j'ai fait des doigts. Mais vraiment, à sortir du cœur pour avoir un bon entourage. Et subhanallah. La personne sur qui j'avais un doute, entre guillemets, la personne où je me disais, est-ce que je suis dans une relation toxique? Oui, non, je sais. En fait, je savais que j'étais dans une relation toxique, mais c'était pas assez clair pour moi. Et bah, elle s'est effacée automatiquement de ma vie. Allah, il me l'a retirée. Mais vraiment, ne jamais négliger les doigts. Ne néglige pas la puissance de ton créateur, parce que c'est lui qui t'a créé. Ne néglige pas sa puissance, parce que quand tu demandes, il t'accorde en temps voulu. Si c'est pas maintenant, ce sera dans 1 heure, dans 2 heures, dans un jour, dans une semaine, dans 10 ans, ça te sera accordé. Mais ne lâche pas. Faut que tu fasses en fait cette da jusqu'à ce qu'elle te soit accordée. Et au moment où elle t'est accordée, remercie ton créateur de te l'avoir accordée. Ou peut-être qu'il t'épargnera d'une chose que tu penses bonne pour toi, mais qui est finalement mauvaise et t'auras meilleur. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être compliqué dans l'acte. C'est facile à dire. Je vais bien te l'accorder. Mais ne néglige pas. Vraiment, persévère. Encore, 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 encore. Même si en fait tu vas avoir un moment de creux où tu vas te dire, ah, c'est bon, ça me saoule. Je fais des doigts tous les jours, mais ça m'est pas accordé. Allah, il a quelque chose contre moi. Pourquoi il m'accorde pas? Il donne aux autres, mais pas à moi. Non, ma sœur, pas du tout. Pas du tout. Détrompe-toi. S'il ne t'a pas donné maintenant, il te donnera plus tard. S'il ne t'a pas donné ça, il te donnera meilleur. Il te donnera meilleur. Vraiment, ne néglige pas sa miséricorde, ne néglige pas sa puissance, ne néglige pas sa grandeur. Ne néglige pas. Parce que je te jure que le jour où ça t'est accordé, tu te dis waouh. Allah, il est grand, il est immense. C'est le Seigneur de l'univers et des cieux. C'est à ce moment-là que tu te rends compte et tu te dis waouh, waouh. Donc vraiment, ne lâche pas les invocations. Invoque, 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 jusqu'à ce que ça te soit donné, jusqu'à ce que ça te soit exaucé. Donc du coup, voilà, l'importance de se connaître, c'est juste, c'est incroyable. C'est la chose à faire avant de se marier, même avant de faire quoi que ce soit d'après moi. Même avant de t'engager dans quoi que ce soit, dans un travail, dans tout, c'est important que tu te connaisses. Parce qu'en fait, si tu ne te connais pas toi, qui te connaîtra mieux que toi-même? Personne. Donc comment tu veux que ton mari, plus tard, te connaisse si toi-même tu ne te connais pas? Si tu ne connais pas tes faiblesses, si tu ne connais pas tes forces, si tu ne connais pas tes valeurs, tes attentes, ta personnalité en elle-même, comment tu veux faire? C'est impossible. Donc du coup, c'est... Il faut vraiment que tu te connaisses. J'insiste, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Vraiment. Mets-toi dans ta bulle. Sors toute seule. Va manger toute seule. Organise-toi en fait des activités avec toi-même. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de sortir toute seule. C'est pas parce que tu sors toute seule que tu n'as pas de copine. Au contraire, je trouve que celle qui sort toute seule... moi, avant que je sorte toute seule, j'admirais les filles qui allaient manger seules, qui faisaient les magasins seules. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire, au début, j'avais un peu peur. Je me disais, ah, les gens, ils vont dire ça. Et en fait, quand tu passes le pas de « je ne calcule pas le regard des autres », je ne calcule pas ce que les autres pensent de moi, je ne calcule pas ce que les autres disent de moi, et bah t'es dans ta bulle quand tu fais tes magasins seul. Genre, c'est un sentiment qui est hyper agréable. C'est savoureux. Vraiment, c'est savoureux. Tu vas où tu veux, tu ne dépends pas de quelqu'un, tu manges ce que tu veux, tu te prends pas la tête en fait. C'est vraiment, c'est nos prises de tête. Donc fais-toi peut-être un jour ou deux dans la semaine, si tu travailles pas ou si tu n'es pas à l'école, des petits moments comme ça. Des petites sorties, des petites activités. Le soir, retrouve-toi avec toi-même, dans ta petite bulle, dans ta chambre. Crée-toi un espace agréable et voilà. T'inquiète pas, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre à te connaître. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Rien ne se fait du jour au lendemain. Sois indulgente avec toi-même. Ça va venir avec le temps. Et Inch'Allah, tu finiras par te connaître sur le bout des doigts. Ensuite, concernant l'accomplissement personnel, quand je parle d'accomplissement personnel, je parle d'études, je parle d'apprentissage, peut-être d'une formation ou d'un métier. Tout dépend de tes hobbies, tout dépend de tes passions, tout dépend de ce que tu veux faire plus tard. Moi, je me suis mariée jeune, certes. J'ai actuellement 20 ans. Je suis en master, Dieu merci. J'allie ma vie du coup de couple et de foyer avec ma vie d'étudiante, avec ma vie d'entrepreneuse avec le carnet. Voilà. Ça peut faire beaucoup quand je te le dis comme ça. Même vu comme ça et entendu comme ça, c'est beaucoup. Je te le dis, c'est énorme. Mais avec de l'organisation, avec des invocations, parce que je demande à Allah tous les jours de me faciliter, parce que ça, c'est pas facile. Pour être honnête avec toi, ce n'est pas facile d'aller à l'école, de te dire qu'il faut que tu rentres, que tu t'occupes de chez toi, que tu dormes tôt, parce que t'as école le lendemain, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi j'étais vraiment dans une mentalité à m'accomplir personnellement et après me marier. Donc il y a celles qui préfèrent finir leurs études et se marier après, et c'est ok. Et il y a celles qui, pendant les études comme moi, se marient, même si c'était pas trop prévu et qu'à la base j'étais vraiment contre. Et après en fait t'as juste à avoir une bonne organisation en fait. Si t'as une bonne organisation, ben c'est ok aussi. Donc pour moi, avant de te marier, il faut quand même que tu aies des bagages, que tu te jettes pas en fait comme ça dans le mariage en mode bon, je vais me marier, mais il faut que toi en fait personnellement t'aies accompli des choses, faut que tu sois fière de toi, faut que tu sois passée par beaucoup de d'épreuves, par des hauts, par des bas, et en fait c'est ça qui va te forger à la vie de mariage d'après moi. Parce que faut pas voir le mariage comme quelque chose de facile, c'est dur. Le mariage c'est dur, on me l'a dit plusieurs fois, on me disait Jasmine le mariage c'est dur, je te jure que c'est dur, tu vas voir, c'est compliqué, vivre avec une personne que tu ne connais pas au début, que t'apprends à connaître avec le temps, que tu ne connaîtras jamais réellement toute ta vie, c'est compliqué, vraiment je te jure, c'est compliqué. Je vais m'expliquer un peu pourquoi c'est compliqué. Parce que quand bien même tu connaissais peut-être la personne avant, quand bien même vous avez appris à vous connaître pendant des repas, pendant des repas en ayant ton tuteur à tes côtés, etc. Oui, vous avez appris à vous connaître, ok. Je te jure que en vrai, tu ne connais pas vraiment la personne. On dit souvent. On connaît réellement une personne quand on habite avec ou quand on part en vacances avec, et je te confirme ces paroles là. Moi je suis pas tombée de 1000 étages non plus, on m'a pas menti sur le papier, donc mais ça peut arriver parfois, tu peux tomber sur une personne qui voudra te montrer son meilleur côté, et parfois la maison pris d'une colère je sais pas, peut-être dans une mauvaise passe, va avoir un excès de colère et va te crier dessus. Alors qu'avant, ça serait jamais arrivé avant, tu vois. Y a quoi d'autre ? Dans les tâches ménagères, peut-être que tu peux tomber sur quelqu'un qui ne va pas t'aider, peut-être que tu peux tomber sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc il faut être patiente, lui apprendre, lui montrer. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un de très solitaire. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très solitaire et j'avais prévenu mon mari avant le mariage en lui disant, voilà, moi, j'ai besoin de mes petits moments toute seule, etc. Des moments où je vais me retrouver toute seule, des moments où j'ai besoin... j'ai besoin d'être juste avec moi-même. Et en fait, il faut vraiment que tu comprennes à ce moment-là que chacun est comme il est et chacun en fait a sa barrière à ne pas franchir. Et moi je pars vraiment du principe où mon mari il a sa petite barrière avec son jardin intime on va dire. Et moi j'ai ma petite barrière avec mon jardin intime et moi j'y pénètre pas. Je pénètre pas dans sa zone à lui, cette zone là pour moi derrière cette barrière je n'y vais jamais. Et pour lui c'est la même chose. Donc je pense que c'est quand même ça, c'est des règles à instaurer et... dont il faut parler avant le mariage. Ensuite, après t'être accompli personnellement, après avoir appris à te connaître, vient les prétendants. Donc peut-être que ça peut être une personne que tu connais déjà, peut-être que c'est une personne qui était dans ta classe, peut-être que c'est un ami de la famille, une connaissance... Ça peut être tout. Ça peut être tout. Ton mari, il peut venir de tous les côtés. Il peut venir de tous les centres sociaux. C'est-à-dire qu'il peut être dans ton centre social amical, scolaire, travail. Il peut venir de partout. Donc, ne néglige aucune porte. Ne néglige aucune porte parce que ça peut venir vraiment comme ça du jour au lendemain. Et pour le coup, moi, ça, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Qui l'aurait cru ? Vraiment, qui l'aurait cru ? Parce que même moi, je n'y croyais pas. Je pense que lui-même, il n'y croyait pas. Je rigole parce que il va écouter et on se sait à ce niveau-là. Donc, bref. Donc, à ce moment-là, quand le garçon se présente à toi, donc ton prétendant, j'aime bien dire prétendant, je trouve ça trop mignon, fais les choses bien. Vraiment, ma sœur, j'insiste sur le fait qu'il faut faire les choses bien. Parce qu'il y a une baraka, mais juste énorme, et une satisfaction de sa personne qui est juste waouh. vraiment, waouh, c'est le mot. Juste après le mariage, c'est incroyable. Tu te dis que tu t'es préservé tout le long du processus de mariage, entre guillemets, et tu te dis que maintenant t'es mariée. Et tu peux lui parler et tu peux le voir. Et Allah, il vous a couvert d'une pluie de baraka, de bénédiction. C'est un sentiment juste incroyable. Et je pense qu'il n'y a que les femmes mariées qui peuvent me comprendre quand je dis ça. Tant qu'on n'est pas marié, on ne comprendra pas. Parce qu'on me le disait, je disais, ok. Mais j'arrivais pas à imaginer la chose. Tant qu'on ne la vit pas, on ne peut pas savoir. Donc j'insiste vraiment sur le fait que qu'il faut faire en fait les bonnes causes, il faut faire les choses bien. Éloigne-toi d'une relation en mariage si t'es dans une relation en mariage. Si là actuellement, hop, je tourne la page de mon petit carnet. Si là actuellement t'es dans une relation hors mariage, donc dans le péché, ma sœur, éloigne-toi loin, 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 loin de tout ça, vraiment. Éloigne-toi. Oui. La vie, c'est un voyage. C'est un voyage qui est différent à tout le monde. Mais c'est essentiel. C'est essentiel que tu te dises qu'il faut que tu fasses le maximum. Parce que en fait, on a tous le même point de départ de ce voyage, c'est-à-dire la vie. Et on a toutes le même point final, c'est-à-dire la mort. Et donc, l'au-delà, le paradis, voilà, on a toutes la même destination. Et nos chemins, ils sont différents. Ils sont très différents même. Et propres à nous, bien évidemment. Mais vraiment, l'essentiel, c'est que tu te dises, faut que je fasse mon maximum pour être une bonne personne. Faut que je fasse mon maximum pour préparer ma vie dans l'au-delà. En fait, cette vie-là, faut que tu la vois comme un test pour avoir la plus belle des vies après. Donc, il faut pas que tu échoues à ce test-là. Faut que tu fasses ton maximum pour gagner l'épreuve, on va dire. Vois ça un peu comme un jeu, si tu veux. Vois ça comme un jeu que tu dois finir, un jeu vidéo que tu dois finir avec le maximum de bons points pour accéder au plus beau des endroits, c'est-à-dire le paradis. Donc, ma sœur, laisse-moi te dire ce verset. N'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc, s'il te plaît, éloigne-toi de ta relation en mariage. Peut-être que tu l'aimes, peut-être que tu penses l'aimer. Peut-être que tu crois l'aimer sincèrement du fond de ton cœur et à travers Allah. Mais c'est juste Shaitan qui est en train de t'embellir en fait cette relation. C'est juste Shaitan qui est en train de te dire « Oh si, vous allez vous marier, continue comme ça, donne-lui tout, donne-lui ta pudeur, donne-lui ta chasteté, ouvre-toi à lui, fais connaissance avec lui parce que sinon tu ne te marieras jamais avec lui. » Mais en vrai, tu t'enfonces encore. Encore, encore, encore. Et là, c'est tout beau, tout rose. Mais après, ça va être tout noir. Et tu te retrouveras toute seule. Parce que Shaitan, il t'a embelli cette relation. Il t'a dit, il t'a chuchoté, continue. Vas-y, parle avec lui. C'est ton futur mari. Continue comme ça. Tu te marieras plus tard, t'inquiète pas, dans 4, 5 ans, 6 ans, quand vous aurez une situation stable. Sauf que Allah, il n'est pas d'accord avec ça. Allah, il nous a dit que c'était un mauvais chemin pour nous. Et nous, en tant que musulmanes, on ne doit pas suivre en fait ce mauvais chemin. Donc éloigne-toi de tout ça, fais les choses bien, préserve-toi, préserve ta chasteté, ta pudeur. Préserve-toi, ma sœur, parce que c'est des choses, c'est des valeurs. Vraiment, c'est des valeurs qu'en tant que femme, on doit impérativement préserver. Donc, même si ça va être dur, même si c'est dur, et je l'entends, et c'est ok, il faut que tu persévères dans le fait que tu ne veuilles plus être dans cette relation. que tu veux être dans le halal. Si vous vous aimez, préservez-vous, faites les choses comme il se doit. Unissez-vous devant votre créateur. Pourquoi faire les choses devant tout le monde? Pourquoi être dans le péché devant tout le monde? Pourquoi s'exposer à tout le monde de manière... Pourquoi s'exposer devant tout le monde en étant dans le péché? Pourquoi? Ça sert à rien. Éloigne-toi de tout ça. De toute façon, la mission du shaitan, c'est de t'éloigner d'Allah. Donc bien évidemment qu'il va t'embellir cette relation. Va vers le bon chemin. Ça va être dur. Ça va être dur de te détacher. Ça va être dur de t'éloigner. Ça va être dur, oui. Mais c'est pour ton créateur. Donc comble ce manque, on va dire. Comble ce trou avec le fait que tu te rapproches d'Allah. Avec le fait que tu invoques Allah pour vous réunir. Si tu en es persuadé, si tu es persuadé que tu vas te marier avec ce garçon, demande à Allah de vous réunir. Demande à Allah de vous faciliter le mariage. Demande à Allah de vous faciliter votre situation. Et faites les causes dans le halal, de manière à ce que tout rentre dans l'ordre. Demande pardon à Allah pour tes manquements. Demande pardon à Allah de manière sincère pour qu'il te pardonne cette fornication. Parce que oui, de côtoyer un homme, c'est de la fornication. Parler par message, c'est de la fornication. Être au téléphone des nuits et des nuits, c'est de la fornication. La fornication n'est pas seulement un acte sexuel. C'est un ensemble de choses. Donc, éloigne-toi de tout ça. Et qu'Allah te facilite si tu es dans cette situation. Ensuite, pour les sœurs qui m'envoient des messages et qui me disent, voilà, j'ai un certain âge, d'après elles, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'âge pour le mariage. Donc j'ai un certain âge et je ne suis toujours pas mariée, je pense que je me marierai jamais, etc. Non, ne perdez jamais espoir. Ça vient à vous quand vous vous y attendez le moins, quand vous vous y attendez pas. Donc ne vous inquiétez pas, n'abandonnez pas vos invocations, n'abandonnez pas vos causes, faites les causes quand même, ça ne viendra pas comme ça. C'est pas en un claquement de doigts que voilà, les situations se débloquent. Donc faites les causes, demandez à votre entourage de vous présenter des hommes qui sont dans la religion, qui sont croyants, qui prient, etc. Et Inch'Allah, ya Rabbi, ça vous sera facilité. Je m'étale tellement en fait, parce que je vais à gauche, à droite sur plein de sujets et ça me parle tellement. Et j'ai tellement envie que tu sois heureuse, que tu sois en accord avec le fait que si tu n'es pas mariée maintenant, tu seras mariée plus tard. Si tu n'es pas mariée ici, tu te marieras dans l'au-delà. Et le mariage n'est pas une obligation. Le mariage n'est pas une obligation parce que si Allah ne t'a pas accordé de mari ici-bas, il t'accordera un mari dans l'au-delà. Donc c'est ok. Et de toute façon, la vie éternelle, elle n'est pas ici. Elle est dans l'au-delà, ma sœur. Donc, ne t'en fais pas. Alors, moi, je vois vraiment le mariage comme ces petits points-là que je vais te donner. Le mariage, pour moi, c'est une complémentarité spirituelle. Je m'explique. Pour moi, déjà, on accomplit la moitié de notre djinn. Hein. Là, je suis mariée, j'ai accompli 50% de mon djinn. Ok. Mais on a un autre travail à faire par la suite. Quand bien même il y a 50% qui sont ok, entre guillemets, il y a les autres 50% par la suite. Et en tant qu'époux, on doit s'encourager à être de meilleurs musulmans. C'est pour cette raison que j'insiste sur le fait qu'il faut que tu te maries avec un homme qui prie, que tu te maries avec un homme qui craint Allah, avec un croyant, avec quelqu'un qui apprend chaque jour, qui a un bon comportement, et j'en passe. La religion, c'est le critère de sélection, on va dire, de ton futur mari. c'est le critère à ne pas négliger. C'est pas le critère où tu peux te dire je peux passer au-dessus, je peux être un peu laxiste. Non, tu peux pas être souple sur ce critère-là. Ce critère-là, tu dois pas du tout le négliger. C'est, il prie, il est croyant, il apprend, c'est un bon musulman, il a un bon comportement, ok, on y va. Il prie pas, non. C'est pas peut-être qu'il va changer après, non. Non, pour la simple et bonne raison que je pars du principe où faut penser à l'éducation de ses enfants par la suite. Faut penser à son foyer par la suite. Faut penser... En fait, faut pas que tu t'arrêtes au début de votre mariage. Il faut que tu vois sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut que tu vois loin. Parce que le mariage, c'est loin, c'est long, c'est toute une vie. Si Allah nous l'a accordé toute une vie, c'est toute une vie. Donc, faut pas que tu te dises, il priera après, en me voyant moi prier, il va prier après, en voyant moi lire le Coran, bah, il lira aussi. Non. Il faut qu'il lise, il faut qu'il prie, il faut... C'est important parce que qui te dit que peut-être il s'y mettra jamais ? Qui te dit qu'il priera jamais de sa vie ? Qui te dit que toi, demain, t'es dans une baisse de foi et que bah, t'as aucun exemple, on va dire, religieux, entre guillemets, devant toi ? Mais comment tu vas faire pour te relever ? Comment tu vas t'encourager seule si la personne en face de toi, elle n'est pas dans la religion ? C'est un exemple vraiment bateau, hein. Vraiment un exemple hyper bateau. Mais je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est la chose à laquelle j'ai pensé avant de me marier, en fait, tout simplement. Et c'est ce que mon mari se disait aussi, c'est que si on n'a pas quelqu'un qui est dans la religion, comment on fait ? Je te jure, c'est la stabilité d'un foyer, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Ça évite beaucoup d'embrouilles, ça évite beaucoup de situations qu'on aimerait, en fait, éviter. Et c'est juste hyper important. C'est quelque chose à ne pas négliger, vraiment. À ne pas du tout négliger. Je pense que les époux, quand ils sont mariés, ils doivent s'encourager à être de meilleurs musulmans, à être de meilleures personnes, à apprendre davantage ensemble, à se soutenir, à s'apporter un savoir, à, je sais pas, mais à faire plein de choses, à évoluer et à devenir la meilleure version de chacun. Pour préparer sa vie dans l'au-delà, tout simplement. Donc du coup, ne néglige pas du tout le critère de la religion dans ta relation. Vraiment pas. Ensuite, je trouve que le mariage, c'est préserver sa foi et sa chasteté. Du coup, ça nous évite tout simplement les relations hors mariage. Pour les sœurs qui sont dans... des relations hors mariage ou pour toi tout simplement si t'es dans une relation hors mariage, vraiment le mariage ça préserve ta foi parce que quand t'es dans une relation hors mariage, bah ta foi elle prend un coup et tu coules complètement comme si on t'avait mis un boulet et que tu descendais dans le fond de l'océan on va dire et qu'en fait t'étais juste en train de te noyer vu que t'es bloqué en fait dans les profondeurs. Je vois vraiment la relation hors mariage comme ça. C'est ce que ça fait en fait à la foi. C'est ce que ça fait à notre foi, c'est que ça nous noie en fait totalement. Et c'est important de la préserver. Et le mariage, ça préserve la foi, ça préserve notre religion, ça préserve vraiment tout. Même notre pudeur, notre chasteté, tout. La descendance pieuse, j'en ai déjà parlé par rapport au fait qu'il faut se marier avec quelqu'un qui a la foi, tout simplement, pour avoir une descendance pieuse, parce que le mariage, c'est avoir une descendance pieuse. Faut pas oublier aussi que le mariage, c'est agrandir la umma, c'est faire plein de petits enfants. Bon, j'ai eu un petit souci avec mon mic parce qu'il s'est déchargé. Je sais plus où j'en étais. Mais je crois que j'étais en train de te dire que je me mélange un peu dans mes sujets parce que, en fait, je suis en train de te donner tous les sujets qui me viennent en tête. Mais c'est un sujet que je pense important à aborder c'est le consentement des parents. Depuis que j'ai ouvert mon canal sur Instagram, où on est un peu en mode DM libre, entre guillemets, j'ouvre un peu la parole à toutes les sœurs qui veulent poser des questions et si bah, j'estime avoir la réponse, ou du moins une réponse, une bonne réponse à leur donner, et c'est pas trop compliqué pour moi, ou un sujet trop compliqué qui demande une science islamique trop élevée que je n'ai pas, bah je préfère, si c'est le cas, enfin si c'est trop compliqué, je préfère dire à la sœur, voilà, va voir un imam, va voir quelqu'un de plus qualifié. Mais quand c'est dans mes cordes, j'y réponds. Et j'ai eu beaucoup de sœurs qui m'ont dit, voilà, je veux me marier, on veut se marier, on veut faire les choses bien. Mais mon père ne veut pas, mes parents ne veulent pas, parce que, je sais pas, l'origine, la couleur de peau, l'âge, voilà. Il y a plein de facteurs qui font que nos parents refusent parfois. Petit conseil pour ces filles-là, prenez peut-être vos parents d'une manière plus douce, d'une approche plus dans la discussion, on va dire, pas d'une manière forte. Parce que la plupart du temps, la manière forte ne fonctionne pas. Pendant tout ça, demander à tout faciliter, c'est important. Mais peut-être envoyer, je sais pas, une de vos tantes, un oncle à vous, pour parler à vos parents, pour essayer de débloquer un peu la situation. Mais vraiment, soyez dans la discussion et pas dans l'affrontement. Parce que c'est pas une solution, la plupart du temps c'est ce qui crée encore plus de problèmes, et c'est ce qui crée plus d'embrouilles, on va dire, et de conflits. Mais soyez vraiment dans la discussion, dans le calme, dans l'explication de pourquoi vous voulez vous marier, pourquoi cette personne, pourquoi lui et pas un autre, pourquoi comme ça et pas autrement. Montrez-leur que, si c'est par rapport à votre âge, montrez-leur que vous n'êtes pas un bébé, parce que la plupart du temps, nos parents, ils nous voient encore comme des enfants, alors que bah, nous, on a grandi, on a pris en maturité, et, etc. Donc, en fait, prouvez-leur vraiment les choses de manière intelligente. Ne soyez pas dans le conflit, ne soyez pas dans le conflit, ne soyez pas dans la tristesse, en vous enfermant dans la chambre, en faisant le bébé entre guillemets, parce qu'eux ils vont vous voir comme ça, en mode ok, elle est en train de pleurer, elle fait son bébé, voilà, alors que non, pas du tout. Il faut affronter les choses de manière intelligente, voir la chose vraiment de manière simple. Ok, il n'accepte pas, c'est pas grave, on va expliquer pourquoi, etc. Si ça doit prendre un mois, deux mois, trois mois, on va continuer dans la discussion jusqu'à ce que ce qu'ils comprennent, jusqu'à ce que tes parents comprennent en fait ta manière de penser et pourquoi. Et peut-être que parfois ça bloque parce que bah, cette personne-là, elle t'est pas destinée et que ce sera quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais ne rentre pas dans le conflit vraiment avec tes parents par rapport à leur consentement. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. On dit parfois que bah, la bénédiction des parents, elle est importante. Mais c'est vrai que quand c'est sur... on va dire sur des points par rapport à la religion, pour celles qui sont reconverties, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Pour celles qui sont sur un point qui est bah, d'origine, de culture, etc., que les parents sont contre parce qu'ils veulent une personne de la même nationalité, de la même origine que vous, du même village que vous, etc., c'est vrai que c'est compliqué, mais ne soyez vraiment pas dans le conflit. Ne soyez pas dans le conflit, c'est pas une solution. Faut vraiment être dans la discussion, et en tout cas, Allah te facilite si t'es dans cette situation, parce que c'est une situation qui n'est pas facile. Donc là, arrivé à ces étapes-là, logiquement, t'es arrivé à l'étape de où tes parents ont accepté ton mariage. Et la bonne intention. À ce moment-là, faut vraiment que t'aies la bonne intention et une intention pure. Donc vraiment purifie tes intentions. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. Peut-être que tu es en préparation de mariage, je sais pas. Mais t'inquiète, si t'es dans une période de stress, ça va aller. Je suis passée par cette période-là. J'ai extrêmement maigri. C'était invivable. Mais après, tu souffles. C'est l'apaisement total. C'est le repos total. Aussi, petite chose que je trouve importante à dire. Quand tu organises ton mariage, quand tu organises ton hlel, s'il te plaît, fais attention aussi à cette organisation, parce qu'on peut vite perdre pied, entre guillemets, entre tradition, entre culture, entre idéologie, entre société, enfin voilà. Ah, en fait, je trouve qu'à cause de la société, on doit impérativement rentrer dans une case de, voilà, le mariage des Maghrébins est comme ça, le mariage des Africains est comme ça, le mariage des... Non. C'est ton mariage. C'est pas le mariage de quelqu'un d'autre. Moi personnellement, je n'ai pas fait de grande fête. J'ai fait un petit repas entre familles dans un domaine juste magnifique, d'une manière hyper simple, avec une décoration très simple, avec des robes très simples. J'ai changé seulement deux fois de robe, histoire de, voilà, de changer un peu de tenue. Pendant cette cérémonie-là, bah, en fait, au tout début, il y a eu la cérémonie, c'est-à-dire avec l'imam, etc. Donc l'union à ce moment-là. Tout était séparé. Tout au long du mariage, c'était séparé, hommes-femmes de leur côté. C'était vraiment dans un esprit hyper convivial, dans la discussion. Tout le monde apprend à se connaître, tout le monde rigolait. Et de voir tout ça, c'était hyper, hyper beau. Et c'était vraiment un baume au cœur parce que je me suis dit, je vais faire un mariage sans musique, c'est de 16h à 22h, peut-être qu'ils vont s'ennuyer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et franchement, alhamdoulilah, à la fin, quand tout le monde est venu nous voir, tout le monde nous a dit, waouh, vous nous avez changé la vision du mariage, un mariage sans musique, c'est bien mieux qu'un mariage avec de la musique, etc. Donc c'est pour ça que je te dis, fais attention à ne pas perdre pied sur ton organisation. Et à tout gâcher, à gâcher tout ton chemin vers Allah, juste avec de la musique après ton halal ou pendant ton mariage ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi. Vraiment, il faut que tu fasses attention à ça parce que on n'y pense pas forcément, parce qu'on veut forcément, je ne sais pas, parce qu'on veut rentrer dans une case ou je ne sais pas, voilà. Mais n'oublie pas que la musique, c'est haram. C'est un gros péché et que dans un cœur où réside le Coran ne peut pas résider la musique et inversement. Donc ne gâche pas tout le chemin que t'as fait, toute la baraka que t'aurais pu avoir juste avec de la musique, juste avec une soirée où tout le monde va danser ou peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas danser ou je ne sais quoi. Juste une soirée, tout va partir en fumée, comme ça, en un claquement de doigts. Tu vas envoyer au feu toute ta baraka qu'Allah t'avait prévue, toute la pluie qu'il t'avait prévue, tout ce qu'il t'avait prévu pour toi juste après, pour de la simple musique, parce que tu veux rentrer dans la case de oui, mais mes parents, ma mère, elle veut un mariage comme ça, oui, mais les gens vont s'ennuyer. Non, fais confiance à ton créateur, fais confiance à Allah. Si tu fais les choses pour lui, t'inquiète pas que tout va bien se passer. Et alhamdoulilah, nous on était vraiment dans cette optique-là. Et ça s'est super bien passé. Vraiment, c'est mon mariage, mais c'est un mariage qui m'a marqué comme si en fait je l'avais vécu en tant qu'invitée. Parce que c'était hyper agréable. Tu rentres pas à la maison en ayant mal à la tête. Et t'as vraiment ce sentiment-là après de te dire ah ouais, genre c'est bien plus agréable, c'est bien mieux, ça n'a rien à voir, etc. Donc vraiment, conseil de sœur à sœur, si t'es en train d'organiser ton mariage, abandonne la musique, vraiment. Abandonne. Il y a tellement de choses bien mieux. Organise-le dans un bel endroit de réception, dans un domaine, dans un jardin, je ne sais pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est que... Bon, on a fait de 16h à 22h. Et donc ça veut dire pendant un court moment, de 16h à 17h, bah, c'était l'imam qui était en train de faire un dars, qui était en train de nous unir, etc. Donc on était séparés à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un petit buffet, toujours séparés. Nous, à ce moment-là, du coup, on est parti faire deux, trois photos dans le domaine. On a laissé les invités parler entre eux, donc les familles se mélangent, les familles apprennent à se connaître. Ensuite, vers les coups de 20h, 20h30, tout le monde va s'installer à sa table pour manger. C'est un repas qui était très raffiné, à l'assiette, etc. Donc c'était super agréable, tout le monde rigolait, tout le monde parlait avec tout le monde, les femmes étaient de leur côté, les hommes du leur. Bien évidemment, pendant le mariage, tout le monde pouvait aller rejoindre son frère, sa sœur, son cousin, son mari ou autre. Il y avait juste à s'envoyer un texto, mais c'était pas homme-femme mélangé, quoi. Tout le monde pouvait aller se balader dans le domaine. D'où le fait que je voulais un domaine pour que ce soit assez grand, pour que tout le monde fasse, on va dire, sa vie, entre guillemets. Et que ce soit pas ennuyant pour tout le monde. Et au final, tout le monde s'est super bien amusé. Vraiment, Dieu merci. Parce que c'était une petite crainte qu'on avait, mais d'un côté, on se disait, nous, on veut pas de musique, donc on va pas mettre de musique parce que les autres en veulent. Et du coup, bien sûr, c'était entre, je crois, 19 et 20 heures, on a fait le henna. Pendant le henna, il y a eu des petits nashid qui ont été mis. Pendant le repas, il y a eu un petit fond d'nashid. Mais franchement, pour être sincère avec toi, on ne l'entendait pas forcément parce que tout le monde était concentré en fait dans sa discussion. Et après est venu le gâteau, le thé et voilà. Fin de soirée et au final, tout le monde est resté après l'heure qu'on avait donnée qui était 22h. Et ça, c'était un vrai baume au cœur parce que tu te dis que vraiment tu as réussi ton mariage si les invités restent encore des heures et des heures après. Voilà, c'était mon petit conseil parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige énormément et quelque chose dont on ne parle pas. Je pense que je vais m'arrêter là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça a pu répondre à certaines de tes questions, j'espère que ça t'aide dans ta situation actuelle ou ça t'aidera dans des situations futures. En tout cas, Inch'Allah, vraiment le mariage c'est une très très belle chose quand on l'aborde de la meilleure des manières, comme Allah nous a dit de le faire. Qu'Allah te facilite si tu veux te marier, qu'Allah te facilite si tu vas te marier, qu'Allah t'accorde un homme pieux et une descendance pieuse, vraiment, sincèrement. Et on se retrouve au prochain épisode, ma sœur. Prends soin de toi.